Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à tous, nous serons en Ituri. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme appelle l'armée à anticiper les attaques des ADF. Elle plaide aussi pour une traque simultanée des rebelles ougandais à Irumu, Mambasa et au Nord Kivu. C'est ce que, selon elle, en moyen de mieux réduire leurs attaques et de mieux protéger la population. Dans l'actualité aussi, ce SOS en faveur des habitants des Kabamba et centre au Maniema. Des fortes pluies ont entraîné des dégâts importants samedi dernier. Bâtiments administratifs, écoles et habitations sont touchés. Au moins une cinquantaine de familles sont sans abri actuellement. Notre invité, le professeur Ngoy Joël Chichot, spécialiste du commerce international. Le Congrès des États-Unis a renouvelé la semaine dernière la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, à Goa, jusqu'au 31 décembre. Il nous explique ce dispositif et les avantages pour la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Nous commençons dans la province de l'Ituri. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, appelle l'armée à anticiper d'éventuelles attaques de rebelles ADF. Dans un entretien accordé aujourd'hui à Radio Kapi, le responsable territorial de cette organisation affirme que l'ennemi serait présent dans plusieurs entités proches de la RN4, la route nationale numéro 4. Christophe Mounia Nderou plaide ainsi pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone afin de permettre aux nombreux habitants qui ont déserté la région de regagner leur village en toute sécurité. Il est joint au téléphone par Jean-Claude Loki.
L'augmentation de l'effectif est très nécessaire, mais aussi la vigilance des deux côtés de la part de la population, ainsi que de nos militaires qui sont sur place. Et cet effectif militaire qui devrait être renforcé dans la zone, ce n'est pas venir juste s'installer, mais voir comment lancer directement les opérations. Surtout, l'ennemi venait de regagner ses anciens bastions. Il faudrait qu'on puisse anticiper tout d'abord les attaques de ces ADF. Et vous verrez que l'ennemi qui avait attaqué au niveau de Kazaro et vers Apakol, c'est le même ennemi qui a attaqué qui est vraiment mauvais, parce que c'est une partie où il y a une grande forêt et il y a aussi des champs de la paisible population, et vous verrez que souvent il est en train de traverser dans ces différentes routes de déserts agricoles, et nécessairement il faudrait qu'il y ait un changement de tactique qui va nous aider à traquer cet ennemi simultanément des trois territoires, du côté de Irumu, Nord Kivu et Mambasa. Nous osons croire que ça pourrait épargner les vies de nos paisibles populations.
Nord Kivu, une tension règne ce lundi dans l'agglomération de Kibirizi en chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, les habitants ont été réveillés dimanche, hier donc, par des détonations d'armes automatiques et des tirs d'obus attribués aux éléments du mouvement rebelle AFC-123. Les tirs venus des collines surplombant Kibirizi ciblaient des zones situées à la lisière du parc national des Virunga vers l'est de l'entité. Qu'en est-il au juste, Élisée Chikota-Chivuita?
D'après les témoins sur place, ces tirs ont visé notamment les localités de Kaumiro, Kiasenda, Domaine, Mukondo et Tiaï dans les groupements de Bambo, des zones où se déploient souvent de divers groupes armés. Nos sources civiles estiment qu'il pourrait s'agir d'une opération de ratissage dans des zones autrefois utilisées comme bastions par les combattants Hutu rwandais FDLR ainsi que par certains groupes Wazalendo. Aucune réplique de Wazalendo n'a été signalée durant ces bombardements. Toutefois, des témoins craignent que des dégâts matériels et humains dans les zones ciblées soient importants. Depuis dimanche, l'accès à cette partie de la chefferie de Buito est extrêmement compliqué en raison de cette opération. Il s'agit pourtant d'une région stratégique, abritant la majorité des champs cultivés par les habitants de Kibirizi, Bambo, Kishiche et Tongo. Ce qui, pour nos sources, pourrait aggraver l'insécurité alimentaire si les violences se poursuivent. Face à cette escalade, le Parlement des jeunes de Kibirizi lance un appel urgent à la communauté nationale internationale, demandant une intervention rapide afin de protéger les civils dans cette zone déjà fortement éprouvée.
Restons en Nord Kivu. L'administrateur du territoire de Lubero alerte sur les conditions de vie difficiles des déplacés dans les secteurs de Bapéré et de Bassoara touchés par les attaques des ADF. Le colonel Alain Kiwiwa, qui revient d'une itinérance dans la zone, fait état de villages abandonnés et d'autres saturés par des déplacés. Il évoque également des salles de classe surpeuplées dans certaines écoles, une situation qui complique les conditions d'apprentissage des élèves. Face à cette crise humanitaire, il lance un appel à l'assistance au gouvernement ainsi qu'aux partenaires humanitaires. Le colonel Alain Kiwiwa, au téléphone de Martial Papi Moukeba.
La situation humanitaire est vraiment déplorable dans ce secteur de Bapere et une partie aussi de la chefferie de Bassoua. Lors de mes itinérances, nous avons constaté que plusieurs villages étaient déjà vidés de sa population et tous se dirigeaient maintenant dans des lieux beaucoup plus sécurisés. Beaucoup d'écoles ou des institutions scolaires sont fermées suite à cette insécurité. C'est pourquoi je voudrais profiter de votre micro afin de solliciter auprès du gouvernement national comme provincial et à nos partenaires, si possible, qu'on puisse assister cette population en vivre comme en non-vivre. Et comme je le dis également, si on peut voir de quelle manière élargir également certains bâtiments, essayer de trouver des bâtiments un peu en surplus, des salles de classe un peu en surplus pour essayer de, pour mieux contenir ces élèves qui sont en déplacement.
Entre temps, dans le territoire de Mwenga, au sud, des déplacés de la chefferie de Luindi installés à Mwenga Centre dans la chefferie voisine de Bastille éprouvent d'énormes difficultés. Leurs conditions de vie laissent à désirer. Ils sont sans abri, sans eau ni nourriture et les enfants n'étudient plus. Leurs écoles sont transformées en quartiers généraux des militaires. Toutes ces conditions humanitaires désastreuses poussent le cadre de concertation de la société civile de Mwenga à monter au créneau. Elle sollicite l'ouverture d'un couloir humanitaire pour sauver la vie de ces milliers de ménages en déplacement. Jean Kassami nous en dit plus.
Le cadre de concertation de la société civile de Mwenga alerte sur les conditions précaires que les déplacés internes traversent au chef-lieu du territoire de Mwenga. La promiscuité, des nuits à la belle étoile, le manque d'accès à l'eau et à la nourriture sont les grandes difficultés auxquelles ces milliers de déplacés internes venus de la chefferie de Luindi font face à Mwenga Centre. Les écoles et les églises sont transformées en abris, compromettant ainsi le bon déroulement des activités scolaires et religieuses. D'autres écoles encore servent de logis aux militaires, une pratique que le cadre de concertation de la société civile de Mwenga réprimande. Elle constitue, selon cette organisation, une violation flagrante du droit international humanitaire. Les acteurs sociaux du territoire de Mwenga demandent l'ouverture d'un couloir humanitaire, la cessation des hostilités et le rétablissement d'une paix durable. Jean Kassami, Radio Okapi.
Sachez aussi que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, est à Kinshasa depuis hier dimanche. Plusieurs rencontres sont prévues dans son agenda, notamment avec le président de la République, la première ministre, les présidents de deux chambres du Parlement, l'opposition politique, la société civile ainsi que les confessions religieuses. Dans la province du Maniema, des vents violents accompagnés de pluies torrentielles ont frappé Kabambar et Centre samedi, causant d'importants dégâts tant du côté humain que matériel. Le rapport d'urgence des organisations humanitaires et des autorités locales parle de l'effondrement des écoles, de nombreuses habitations et des bâtiments publics, ce qui a entraîné une paralysie partielle de l'administration locale. Le bilan provisoire fait état de 6 personnes blessées, nécessitant une prise en charge médicale urgente, ainsi que de plus de 50 ménages déplacés, désormais sans abri adéquat. Le bureau du territoire de Kabambar est entièrement détruit, déplore la perte de documents administratifs, d'archives et de ses équipements. Florence Kizalunga revient un peu plus en détail sur ces dégâts et les appelle à l'aide.
Les infrastructures scolaires ont également été touchées. L'Institut Kabambar et l'école primaire Salama ont perdu plusieurs salles de classe, entraînant l'interruption immédiate des activités scolaires. Plus de 50 maisons se sont écroulées, plongeant de nombreuses familles dans une situation de grande précarité. Le député national, Emedi Amoury Xavier, qui exprime sa solidarité envers la population sinistrée, appelle à une assistance humanitaire urgente.
Le samedi 7 février, s'est abattu une grande pluie accompagnée de vents violents. Et cette pluie a causé beaucoup de dommages. Beaucoup de maisons se sont écroulées et cette population affectée passe mieux à la belle lettre. Et même la toiture du bureau du territoire a été emportée et tous les documents ont été mouillés. Je voulais interpeller le gouvernement national et le gouvernement provincial aussi d'apporter une aide adéquate à cette population-là qui souffre et que cette aide ne puisse pas prendre plus beaucoup de temps. C'est le moment d'agir parce que la population elle est tentée d'attendre.
Cet appel est également relayé par l'organisation humanitaire Action pour la restauration de la paix et la justice qui plaide pour une intervention rapide et coordonnée afin de répondre aux besoins vitaux des populations affectées à Kabambar et Centre. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons justice à présent. Jugé en procédure de flagrance devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, l'avocat Freddy Ntumba a été condamné samedi dernier à 8 ans de prison ferme assorti d'une amende de 500 000 francs congolais et d'une arrestation immédiate. Il était impliqué dans des manœuvres frauduleuses ayant conduit à la saisie irrégulière d'un immeuble appartenant à Rawbank RDC. L'avocat est formellement condamné pour escroquerie, rébellion au faux et usage de faux. La défense parle d'un jugement instrumentalisé et d'un règlement hors de compte. Le condamné considère, lui, ce jugement comme une pression pour l'intimider. Mais pour le ministre de la Justice, Guillaume Guéfa, cette décision démontre que la justice congolaise demeure ferme face aux dérives et que nul statut, nulle influence ne saurait prévaloir sur la loi. Les peuples autochtones de Bafoussamé dans la province du Latchopo courent le risque d'extinction si on y prend garde. En cause, la diminution de leur nombre pour diverses raisons, notamment leurs mauvaises conditions de vie. L'alerte a été donnée le week-end dernier par le chef du secteur de Bakundumu lors du passage d'une délégation conjointe composée des membres de l'ONG environnementale Tropenbos RDC et de Tenure Facility, son partenaire technique et financier. Le chef du secteur Henri Massimango plaide pour l'amélioration de leur cadre de vie. Explication avec vous, Jacques Moukou.
Le nombre des peuples autochtones a diminué dans cette contrée à cause de la rébellion, affirme le chef de secteur de Bakundumu, Henri Massimango. Selon lui, bon nombre d'entre eux ont perdu leur vie pendant cette période. Afin de les protéger, il plaide pour leur installation dans la cité, aux côtés des Bantous. Ce besoin de vivre dans un campement dans la cité figure parmi tant d'autres souhaits exprimés par les paysans. Cependant, il ne rentre pas dans le mandat de Tropenbos. Son directeur, le professeur Alphonse Maindo, émet le vœu de voir d'autres partenaires intervenir aussi dans cette zone.
Les gens, quand nous demandent des questions d'alphabétisation ou des questions d'amélioration de l'habitat et tout ça, ça ce n'est pas dans notre compétence. Ou les gens demandent des centres de santé ou des maternités, ce n'est pas notre compétence. Et donc, ou des gens qui demandent de l'eau. Donc ça, le fait d'entendre les gens exprimer ces besoins, ça nous permet aussi, grâce à vous également, de pouvoir relayer ces messages auprès d'autres partenaires qui ont des spécificités, qui travaillent sur ces questions-là, de pouvoir venir pour répondre à ces besoins.
Signalons que le lieu pressenti pour la construction de leur campement est situé juste à proximité du bureau du secteur. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Katanga, près de 3500 enfants en rupture de liens familiaux et vivent dans la rue à Lubumbashi. Cette situation interpelle un groupe de jeunes qui a fait un plaidoyer auprès des autorités de la province sur les conditions de vie précaires de ces enfants. C'est à travers un mémorandum que ces jeunes ont déposé vendredi au gouvernorat du Haut-Katanga au cours de la réunion du Conseil provincial des ministres. Pour la Mundanga, nous donne ici l'essentiel de leur message.
Dans leur mémorandum, ces jeunes demandent au gouvernement provincial du Haut-Katanga de construire beaucoup de centres d'accueil pour les enfants en rupture des liens familiaux, leur offrir un encadrement approprié qui pourrait les motiver à quitter la rue. Il y a lieu aussi d'offrir à ces enfants l'accès aux soins médicaux. Ces jeunes exhortent le gouvernement provincial du Haut-Katanga d'associer la police à la gestion de la présence de ces enfants vulnérables en usant de l'interpellation, la dissuasion et la persuasion. Il est question aussi d'augmenter les budgets destinés à la protection de ces enfants sans abri, soulignent les jeunes dans leur mémorandum. Ces enfants sont à la base d'actes d'agression, de vols et de menaces sur des paisibles citoyens dans la ville de Lubumbashi. Pour rappel, des centaines de jeunes présumés délinquants de Lubumbashi ont été transférés dernièrement au service national de Kanyamakasese dans le Haut-Lomami pour l'apprentissage des métiers. Signalons qu'une enquête qui s'est étalée sur une période de 3 ans a été menée par ces jeunes en collaboration avec la division provinciale du genre, avec l'UNICEF et a permis d'identifier près de 3500 jeunes en rupture familiale à Lubumbashi. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, le prix du sac de 50 kg de ciment gris connaît une flambée. Depuis le week-end dernier, il se vend entre 30 et 32 dollars américains contre 25 dollars seulement la semaine précédente. Cette hausse est attribuée à la rareté du produit sur le marché, explique plusieurs opérateurs économiques.
Actualité internationale.
Le pape Léon XIV a fait part de sa tristesse après les attaques perpétrées samedi dans le nord-ouest du Nigeria par des hommes armés. Ces derniers ont tué 3 personnes alors que 11 autres ont été enlevés, dont un prêtre catholique, rapporte africanews.fr. J'exprime ma proximité dans la prière à toutes les victimes de la violence et du terrorisme. J'espère que les autorités continueront à œuvrer avec détermination pour assurer la sécurité et la protection de chaque citoyen, a déclaré le chef de l'église catholique hier à la fin de la prière et hebdomadaire de l'Angélus à la place Saint-Pierre. Au Sénégal, 14 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'appartenir à un réseau de pédophiles opérant entre le Sénégal et la France. Selon la police sénégalaise, une opération de grande envergure a permis de démanteler un important groupe criminel. Nous passons à présent à notre invité.
L'invité.
Il s'agit aujourd'hui de Ngoy Joël Chichou, spécialiste du commerce international. Vous le savez, le Congrès des États-Unis a renouvelé la semaine dernière la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique à Goa, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Ce dispositif permet aux pays africains dans la République démocratique du Congo d'exporter plusieurs produits vers le marché américain sans droit de douane. Pour en parler, nous recevons donc le professeur Ngoy Joël Chichou, spécialiste du commerce international. Il compte parmi les personnalités qui ont œuvré au retour de la RDC dans l'AGOA. Ils sont chrétiens ici avec Alain Rung.
Professeur Joël Ngoy Chissot, bonjour. C'est quoi l'AGOA?
Merci beaucoup, cher journaliste Alain Rung. L'AGOA, qui est une loi des opportunités américaines pour le développement en Afrique, est simplement cette loi votée par le Congrès américain et publiée par le président des États-Unis afin de pouvoir intervenir dans le développement de l'Afrique à travers l'assistance apportée à différents secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures, la formation en gestion des entreprises afin de permettre aux productions africaines d'être exportées aux États-Unis sans droit de douane. C'est vrai que nous sommes investis sur ce programme, mais il faut aujourd'hui remercier le chef de l'État et le ministre, son Excellence Julien Paluku, qui aujourd'hui gère d'une manière très efficace l'AGOA et a contribué à fournir toutes les informations permettant que ce programme soit renouvelé.
La RDC et les États-Unis ont signé des accords, notamment de coopération économique, le 4 décembre 2025 à Washington DC. Quelle pourrait être la valeur ajoutée de ces accords par rapport à l'AGOA?
Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de saluer l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir lui-même initier les débuts de ces accords avec les États-Unis. Vous savez que depuis la conférence de Berlin, passant par la colonisation, l'indépendance du Congo et la période géopolitique de la guerre froide, le Congo, notre pays, a toujours été comme un élément sur le menu à table des grands décideurs à travers le monde international. Mais c'est pour la première fois que le Congo, à travers les chefs de l'État, s'assoit avec le dirigeant le plus puissant du monde pour signer un accord. Cet accord vient s'accoupler à l'AGOA pour vraiment produire des résultats très efficaces. L'accord, dans sa conception, parle de deals miniers qui sont des montants très très importants, qui demandent des interventions des grandes multinationales. Et si, à travers ces accords, on devrait aider le secteur privé congolais à participer aux deals, ils sont vraiment incapables compte tenu de leur état de finances. L'AGOA, alors, vient aider les petits producteurs, les petites entreprises à s'améliorer, à acquérir un capital qui leur permet d'être des sous-traitants ou d'entrer dans le joint venture avec les grandes entreprises américaines. Voilà une nouvelle donne qui vient s'ajouter et sur laquelle notre pays doit capitaliser pour que la population tout entière se retrouve devant ces grands deals qui font appel à des grands financements que parfois notre secteur privé au Congo n'a pas.
Pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux opérateurs économiques africains en général et particulièrement aux Congolais pour qu'ils puissent tirer tous les bénéfices possibles de l'AGOA?
Vous savez, comme expert de l'AGOA, un sujet qui m'a tenu à cœur depuis mes études de doctorat jusqu'à faire une thèse là-dessus, est que acceptons et avouons-le que les pays africains généralement dorment immédiatement après l'extension d'une période quelconque de l'AGOA et ne se réveillent qu'en dernière minute lorsque ces programmes touchent à sa fin. Alors que pendant ce temps, on pouvait rentrer dans ces programmes qui prévoient l'assistance agricole, l'assistance dans l'éducation et la formation de l'entrepreneuriat, la construction des infrastructures et des crédits aux infrastructures qui jouent dans les exportations vers les autres pays. Si, premièrement, les gouvernements de nos pays creusaient dans ces programmes pour tirer cet avantage-là, ça va beaucoup aider les secteurs privés à accroître sa production et à trouver des débouchés vers les États-Unis. Il faut dire ici que les ports en eau profonde jouent un grand rôle, les cargos vers les États-Unis jouent un grand rôle. Donc, si les gouvernements améliorent ces conditions et le secteur privé suit cette tendance dans sa production nationale, on peut bénéficier beaucoup de la GOA.
Professeur Ngoï-Joël Chisso, je vous remercie.
Professeur Ngoï-Joël Chisso, spécialiste du commerce international. C'est la fin de ce journal préparé par Alain Rung et Élisée Chikota Chivuita avec Babel Pongo-Massimango à la présentation. André Mungu à la mise en onde. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Bon après-midi.